Pourquoi ça pue ?
Quand on est dégoûté par un aliment qui, par exemple, est pourri ou corrompu, c'est une façon de se protéger de l'empoisonnement et de l'intoxication alimentaire. Donc il y a une fonction de survie.
Le kazou marzou.
Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur épouvantable ?
Il y a des fromages qu'on peut garder 7-8 ans. Et là, ce que l'on voit, ce sont nos asticots au milieu du fromage qui bougent hein, et que l'on est censé consommer avec le fromage.
Ça, il faut reconnaître que l'odeur n'est pas très agréable.
Nuoc mam. Pour information, c'est fait avec des anchois pourris.
Les cieux bénissent le liquoreux et les châteaux profitent du botrytis, ce champignon microscopique qui donne la pourriture noble.
Les spotis fermentent à la bicuisson, les odeurs s'exhalent.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Vous reprendrez bien un peu de sur-streaming scandinave avec un trait de Nyok Mam du Vietnam et une gorgée de vin de Sauternes. Et ces spécialités vont d'autant plus faire frissonner votre palais qu'elles ont en commun d'être toutes pourries. Derrière ces arômes évolués, ces odeurs puissantes, son aspect parfois morbide, le pourri, c'est souvent la promesse du plaisir au bout de la fourchette. Et on va comprendre pourquoi, car au-delà évidemment de son côté un peu provoque, le mot pourri recouvre une réalité alimentaire. À quel stade de fermentation, d'évolution, de maturation on peut parler de pourri ? Dire que quelque chose est pourri est-il un jugement de valeur ? Ou est-ce que cela correspond à un phénomène scientifiquement observable ? Les saveurs pourries ont-elles encore une place dans notre alimentation ? Une alimentation de plus en plus industrielle et hygiéniste, eh bien on va tenter de répondre à toutes ces questions avec nos deux invités du jour. Tout d'abord Marie-Claire Frédéric, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes déjà venue plusieurs fois au micro dont on va déguster. Vous êtes une historienne de l'alimentation, spécialiste de la fermentation avec, on peut le dire déjà, un ouvrage de référence que tout bon cuisinier a dans sa cuisine, c'est Ni cru ni cuit. Ou ni cuit ni cru ?
Ni cru ni cuit.
Ni cru ni cuit, c'est aussi un blog.
Oui, exact.
Le vôtre, vous étudiez les phénomènes de fermentation.
C'est ça, exactement.
Dans le monde entier. Et là, vous revenez avec Pourri, ça le mérite d'être clair. Un essai aux ateliers d'Argol. Un voyage trépidant, je me suis régalé de bout en bout, puisque vous explorez l'histoire et la géographie des spécialités transformées par les bactéries et les moisissures. Et vous allez, car nous restons évidemment une émission de recettes, nous proposer des choses à faire à la maison pour se frotter aux doux frissons du pourri. Un petit exemple ?
Par exemple, je vais vous expliquer comment faire du garum.
Oui,
qui est le condiment, la sauce de poisson pourri des Romains de l'Antiquité. Et puis, je vais vous expliquer aussi une autre recette antique, le moretum oxyporum d'un gaulois romain, oui. D'un gallo-romain, voilà, qui va être très amusante à faire.
Ouais, et il faut mettre, je pense, un bouclier, car on va ouvrir un bocal et on ne sait
pas encore ce qui va se passer.
Projection possible sur les murs de notre studio. En parlant de ces bactéries et de ces moisissures qui interviennent dans les processus de fermentation de nos aliments, et ben celles-ci sont souvent sous le microscope d'un biophysicien passionné de sciences culinaires, chercheur au CNRS, enseignant, auteur de nombreux livres. Je ne sais pas comment il fait pour faire autant de choses en 24 heures chaque jour. C'est Christophe Lavelle, bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien.
Vous êtes également le commissaire scientifique d'une exposition qui a beaucoup de succès en ce moment et qui se tient jusqu'au 7 juin, c'est bien
oui.
ça ? Au Muséum d'Histoire Naturelle.
Au Musée de l'Homme.
Au Musée de l'Homme.
Qui est un des départements du Muséum.
Absolument. Comment s'appelle cette exposition ?
Je mange donc, je suis. Clin d'œil direct à Descartes, dont nous avons le crâne dans nos collections permanentes. Donc.
C'est cela. Et il est aussi question de fermentation dans cette
Tout
exposition.
À fait.
Donc on va en parler ensemble dans les fauteuils des chroniqueurs aujourd'hui. Je demande à Arnaud Daguin et Jérôme Gagnès. Bonjour les amis.
Hello, hello.
Bonjour à tous.
Arnaud Daguin.
Yes.
Alors ?
Alors, un coup de bêche aujourd'hui.
Un coup de bêche.
Oui, parce qu'il faut planter des arbres à un moment donné. Dans quoi les plantes tombent ? Mais on va voir ça tout de suite.
On va voir ça avec vous tout à l'heure dans votre coup de lame, cher Arnaud et Jérôme Gagnès.
Chez moi, la pourriture est noble.
Oui, et elle se verse dans le verre.
Exactement.
Avec parfois des sensations formidables à la clé, c'est ça ?
Exactement.
Derrière la console, Laurent Thomas, Nicolas Slimani, Nadia Chougui, pour réagir en direct à cette émission. Un mail à onvadéguster@radiofrance.com ou le bouton intervenir sur l'application mobile de France Inter.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Juste avant de se mettre des saveurs pourries sous le palais, je vous propose un petit détour par Bordeaux où j'étais pas plus tard que jeudi et vendredi et je me suis enfin attablé chez Racine, un bistrot gastronomique dont on n'arrêtait pas de me parler. Les Bordelais que je rencontrais pendant des séances de dédicaces ces dernières années me disaient « il faut aller chez Racine ». Des auditeurs m'ont écrit des mails, des gourmets m'ont contacté sur les réseaux sociaux « allez chez Racine ». Alors Racine, déjà, rien à voir avec le bistrot italien Racine de Simone Tondo à Paris. Racine, c'est la table bordelaise ouverte en 2015 par Daniel Gallagher. J'ai bien dit Gallagher et pas Gallagher. Non. Ok, non, mais il connaît rien au rock anglais. Je sais pas pourquoi je me tournais.
Je comprends très bien de quoi vous parliez, monsieur Gaudry, excusez-moi.
Pardon, excusez-moi, je m'égare. Je parle de Daniel Gallagher, un cuisinier écossais, qui a, figurez-vous, aiguisé ses couteaux chez Sketch, la table londonienne de Pierre Gagnaire, au Plaza Athénée, avec Alain Ducasse. Et il a installé, ce jeune écossais, il a aujourd'hui 38 ans, sa table de 34 couverts entre les quartiers Mériadec et Gambetta. Et si cette table affiche tout le temps complet au point qu'il faille réserver 2 semaines à l'avance pour certains week-ends, c'est pour son excellent rapport qualité-prix qui lui a valu d'ailleurs dès son ouverture un bip gourmand dans le guide Michelin. Menu du jour, jeudi au déjeuner, vous voulez savoir ce que j'ai becqueté ?
Allez.
Sèche du bassin d'Arcachon et radicchio, vous savez cette chicorée italienne rouge un peu amère qui barbotette dans un formidable bouillon de jambon fumé, très profond, sapide, avec des lamelles de shiitake. On était entre l'umami, l'amertume, la rondeur du jambon, le fumé, c'était vraiment délicieux. En plat, je me tourne vers Arnaud Daguin, un magret de canard des Landes.
Oh.
Merci papa Daguin. Rôti au sautoir, alors comme je l'aime, je pense qu'Arnaud d'ailleurs vous l'auriez validé, un gras... Vous savez, un peu...
Guilloché, oui.
Casaillé fondu doré.
Exactement, voilà. marqué et juteux.
Parfait.
Ouais, une chair tendre, alors entre le saignant et le rosé, mais vraiment
ouais,
chouette.
Ouais, c'est ça, ouais.
Bien tendre et moelleuse. Il y avait à côté une grosse tranche de rutabaga, bien fondante. Le tout arrosé d'un jus dingue. Le jus, vraiment, vraiment super. Un jus d'oignon avec une pointe de sauce soja. On était dans les goûts, vous savez, les goûts un peu bruns. Les goûts marqués, colorés, un peu caramélisés, des saveurs rondes et puissantes. Et puis, bon, sur ce canard, je me serais peut-être passé de la tuile au sésame qui trônait sur le magret et qui apportait une touche un peu sucrailleuse que moi j'aurais écarté. Et en dessert, une brioche perdue délicieuse, bien moelleuse, avec un siphon de foin fumé et des pruneaux macérés au cognac. Vous avez vraiment l'impression, et c'est pas qu'une impression dans ce restaurant, qu'on est au cœur de l'Aquitaine, hein, entre le magret de canard des Landes, les pruneaux macérés au cognac. Combien pour cette entrée plat dessert, copieux, avec des produits locaux, très bien exécutés ?
Une vingtaine d'euros ?
22 euros.
Ah ouais,
22 euros, une très jolie séquence gastronomique. Et le soir, c'est un menu à 32 euros. Vous ajoutez des amuse-bouches, des pré-desserts, des mignardises. Et du coup, bah, tout Bordeaux, à court et même de bien plus loin, chez Racine. Je vous ai confié, cher Jérôme Gagnès, la carte des vins de ce restaurant.
Oui.
Alors
Elle est bien. Il y a des jolies références en Bourgogne, en Côte-du-Rhône, dans la Loire. C'est moins amusant à Bordeaux.
Ouais.
C'est plus conventionnel, on va dire, à tous les sens du terme. Donc voilà, on passera notre chemin pour Bordeaux cette fois-ci. À Bordeaux, c'est quand même assez dommage. Et j'ai retenu notamment un très très joli vin d'Ardèche, qui est le Mas de Libian, cuvée de chez Hélène Thibon, la cuvée Boutzan. C'est la cuvée, c'est une des premières cuvées du domaine. C'est riche en fruits, mais ça n'est jamais lourd. Il y a de l'élégance. C'est un très joli vin. Et c'est facturé, bon, c'est un petit peu doré sur tranche, hein, malgré tout, parce
ouais,
39 euros une bouteille de Boutzan, bon.
Bon, donc ça veut dire que la marche se fait un peu dans ce restaurant sur les vins?
De toute évidence.
De toute évidence. Bon. Est-ce que là, vous nous parlez d'un vin nature?
Eh ben, je pense que ça rentre dans cette toute nouvelle catégorie. Merci François-Régis de me poser la question, parce que ça me donne l'occasion de saluer une naissance, carnet du jour, la naissance de la charte des vins nature. Ça vient de sortir, allez la lire, renseignez-vous. Une bonne fois pour toutes, ça remet l'église au milieu du village et ça permet de savoir de quoi on parle précisément.
Parce que les vins nature, le problème, c'est que c'était une notion un peu flottante. Il n'y avait pas vraiment de réalité administrative ou réglementaire derrière.
C'était carrément flottant et il y a une avancée majeure, c'est que maintenant, il est obligatoire d'être certifié bio pour être vin nature, ce qui n'était pas le cas avant.
Première chose. Et puis le vin nature, c'est évidemment aussi...
Alors on s'énerve beaucoup sur les sulfites et donc là, en l'occurrence, on a fixé une bonne fois pour toutes une limite. Elle sera peut-être discutée, elle est peut-être discutable, elle va peut-être en énerver certains, mais au moins, elle est là, c'est 30 mg de soufre par litre.
Donc il peut y avoir un peu de SO2
bien
dans un vin nature.
D'autant plus que les œnologues vous confirmeront que des vinifications, notamment des vinifications avec des levures indigènes, créent du sulfite naturel. Oui.
On a un très bon scientifique sous la main, profitons-en. Rappelez-nous en un mot, Christophe Lavelle, le rôle du SO2, du soufre, des sulfites dans le vin à la mise en bouteille. C'est une question de conservation ?
C'est pour limiter la pourriture, justement. C'est un puissant bactéricide, on n'a pas trouvé mieux jusqu'à présent. Après, tout est, voilà, il suffit de doser correctement, à la fois pour assurer la qualité du produit sans taper sur la tête du consommateur. Donc après, c'est un débat sans fin, soufre ou pas soufre. Disons que quand on n'en met pas, on prend des risques. Plus on en met, moins on prend de risques. Donc après, c'est un choix à la fois économique et
quand
sanitaire.
On en met en tout petit dosage homéopathique, on peut donc être dans la catégorie des vins nature sans intrants chimiques, quasiment.
Voilà. Il y aura un logo, comme ça au moins les choses seront claires.
Parfait.
Bravo.
Et Racine, si vous voulez y aller avec la personne de votre choix, c'est le restaurant de Daniel Gallacher, 59 rue Georges Bonnac à Bordeaux.
Juste une chose, pardon, c'est Sébastien David qui a notamment créé cette charte, et remercions-le parce qu'il a quand même souffert beaucoup avec la législation, donc vraiment bravo à Sébastien.
Ça marche. Donc Racine, et c'est ouvert midi et soir du mardi au samedi. Passez-leur le bonjour de la part d'On va déguster. Bougez vos corps pour vous mettre en appétit sur France Inter.
Hey boy, what you say boy? You tryna play coy like a game boy? Hit my phone boy, is your homeboy? Are you a lone boy? Come give me dome boy. Got a boy with degrees, a boy in the streets, a boy on his knees, he a man in the sheets. Sheesh, it's all Greek to me. Got this boy speaking Spanish, ay papi. Baby, I don't need you, I just wanna freak you. I heard you a freak too. What's 2 plus 2? Mississippi boys and the city boys. I like the pretty boys with the bow tie. Get your nails did, let it blow dry. I like a big beard, I like a clean face. I don't discriminate, come and get a taste. From the playboys to the gay boys, go and slay boys, you my fake boys.
Baby, I don't need you,
I don't need
you. I just wanna freak you,
I want it,
yeah. I heard you a freak too.
That's right.
What's 2 plus 2?
C'est Eliso pour attaquer son dimanche en forme avec le titre Boys sur la version de luxe de son album 'Cause I Love You. Palais sensible, s'abstenir. Le moisi, le putréfié, le faisandé, le gâté, le corrompu, le décomposé s'invite à la table dont va déguster.
Des soldats américains fraîchement arrivés sur le sol normand après le débarquement de 1944, surgissant dans une ferme, se sont trouvés devant la porte d'une cave d'où s'échappaient de puissantes et morbides exhalaisons. Les jeunes gens pensèrent avec horreur au massacre qui avait dû se produire en ce lieu les jours précédents. Ils enfoncèrent la porte en imaginant les cadavres en décomposition qu'ils allaient trouver derrière elle. L'odeur qui s'en échappait était épouvantable. Leur surprise et leur soulagement furent aussi grands l'un que l'autre après l'ouverture de la porte. Ici, point de méfait de la guerre, seuls des livarots étaient sagement alignés sur des étagères de bois, dans le silence et la pénombre.
C'est l'ami Fabienne Sintès, la voix du 19-20 de France Inter, qui lisait un extrait de « Pourri », votre essai, Marie-Claire Frédéric, édité par les Ateliers d'Argol, un petit récit passionnant, vraiment, qui tente de délimiter les frontières à la fois culturelles et scientifiques de la notion de pourri dans notre alimentation. On entendait cette anecdote de ces GI qui débarquaient en Normandie. C'est une histoire vraie, visiblement, que vous tenez d'un vétéran.
Un vétéran, voilà, c'est tout à fait. En fait, à l'époque, bon, ces jeunes gens n'avaient jamais senti une odeur pareille. Donc, ils étaient habitués à la nourriture, on va dire, stérilisée, très, très hygiénique des États-Unis. Et ça, c'était un choc culturel, exactement.
Et la suite de l'histoire raconte quand même que ces soldats se sont jetés sur les livarots et ont fini par les apprécier.
Ben, au bout d'un moment, oui, il a fallu une initiation. Enfin, il a fallu les amener comme ça. Il faut des explications. Il faut être entouré. Il faut qu'on vous explique les choses, les tenants et les aboutissants de la chose pour que vous puissiez commencer à les apprécier.
Donc il y a forcément nécessité d'initiation. Et ça nous dit quelque chose justement sur la relativité du pourri, ce qui peut nous sembler très bon à nous. Peut sembler absolument répugnant, dégoûtant, dégradant à d'autres civilisations.
Tout à fait. La frontière, elle est vraiment bizarre. Enfin, elle est très ténue parce que, par exemple, faites goûter un fromage français à un Chinois, il va trouver ça absolument répugnant.
Il y a eu des expériences, hein, d'ailleurs. Oui. Un Chinois, vraiment, devant un camembert, c'est très compliqué.
C'est très compliqué, exactement. Et nous, Européens, on a eu du mal aussi à s'habituer au goût du Nuoc Mam, par exemple.
Ou même des tofu très
fermentés.
Et le durian aussi, comment s'appelle ce
le durian.
Le durian.
Oui. Ah, le durian, c'est un fruit tropical aussi qui a une odeur très forte et que c'est en fait un début de fermentation aussi.
Il est aussi question de fermentation végétale dans le durian parce que effectivement ce gros fruit à picot qui est d'ailleurs interdit dans bon nombre de compagnies aériennes et dans le métro de Singapour, s'il sent comme cela, c'est précisément parce qu'il y a eu une surmaturation ou
C'est un phénomène de transformation microbienne qui se passe dans le fruit.
Il fait la tête, Christophe, il fait la grimace.
Oui, parce que le durian pue intrinsèquement, même quand on le...
Même s'il n'est pas mûr.
Oui, même s'il n'est pas surmûri, il pue par défaut déjà.
D'accord, cette histoire, alors vous avez la parole, vous la gardez, cher Christophe Lavelle, justement, parce que on évoque, à travers cette anecdote d'un vétéran du débarquement, l'odeur de ces livarots découverts dans une cave d'affinage. Cette anecdote dit aussi quelque chose de notre tentative de définition du pourri, parce que c'est l'enjeu de cette émission. Est-ce qu'il y a une odeur de mort dans justement ces fromages extrêmement affinés? Est-ce qu'il y a une proximité olfactive, un parallélisme entre un cadavre en décomposition et des ingrédients, des aliments qui ont subi une fermentation assez poussée?
Oui, parce que dans tous les cas, il y a une colonisation par des micro-organismes qui peuvent être communs entre ce qu'on va retrouver sur la décomposition d'un cadavre ou sur la décomposition d'un livarot. Ça génère des composés soufrés, ammoniaqués, qui peuvent être similaires. Après, ça reste des micro-organismes qui ont des jobs un peu différents. Sur un corps humain, en décomposition, on a d'abord une autolyse. C'est-à-dire que les cellules commencent à mourir un peu par elles-mêmes. Et puis petit à petit, tout le microbiote intestinal qu'on porte en nous, plus ce qu'on a un peu partout sur notre corps, se met à profiter de cette mort pour de liquéfier notre corps, pour s'en nourrir. Donc ça génère des protéases avec des jolis noms comme putrécine ou cadavérine. Et c'est ces réactions chimiques qui, au fur et à mesure, vont déclencher des composés à l'odeur effectivement plutôt repoussante quand même pour la plupart d'entre nous, mais qu'on peut apprendre à apprécier quand on sait psychologiquement qu'on a en face de soi un fromage et non pas un cadavre. Et cette notion psychologique est essentielle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tests où on fait sentir des odeurs aux gens. Si on leur dit, tiens, regarde, c'est du parmesan, ils sentent, ils disent, oui, j'ai envie d'en manger.
Alors qu'on dit souvent que le parmesan peut avoir une odeur de vomi.
Et en fait, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que si on met le même parmesan avec une étiquette vomi sur le gobelet qu'on leur fait sentir, les gens disent, mais jamais de ma vie, je pourrais avaler un truc pareil.
Donc ça veut dire que psychologiquement, il faut passer une espèce de cap de barrière olfactive avant d'accéder au plaisir potentiel d'un aliment hautement fermenté. C'est ça,
voilà, c'est exactement ça. Et c'est là qu'intervient la culture, le côté culturel. Parce que, ce que je disais tout à l'heure, il faut être entouré, il faut qu'on vous explique la chose pour pouvoir l'apprécier.
Absolument. Arnaud, vous aviez quelque chose à ajouter ?
Non, non, mais je pense qu'il y a une dissociation. Il faut savoir séparer la chose de l'œuvre, comme disait Jean-Louis.
Oui.
D'actualité.
Absolument.
Et ça va dissocier comme ça ces arômes absolument impactants et ce qui peut arriver après dans le palais. Je pense que c'est culturel.
C'est culturel.
Alors, après, ce qui est propre à la consommation doit l'être à la fois. Il y a une notion culturelle dans le sens que ça doit être propre à la consommation en termes de goût, mais ça doit aussi quand même, de manière universelle, être propre à la consommation en termes de santé, impact toxico. Donc il y a quand même des aliments qui, une fois fermentés ou pourris, vont poser des problèmes digestifs, et ça c'est universel.
Alors on a justement plein de questions et de réactions de nos auditeurs sur notre mail onvadéguster@radiofrance.com ou sur le bouton intervenir de l'appli mobile de France Inter. Beaucoup de gens se posent des questions sur les risques sanitaires qu'implique la consommation d'un produit hautement fermenté. On est, on l'a compris, à l'opposé de notre modèle agroalimentaire qui est plutôt tourné au contraire vers le zéro, vers le zéro bactéries, vers un hygiénisme dont on essaiera d'ailleurs de comprendre un peu les origines, mais les risques, c'est-à-dire quand on mange quelque chose, alors on a des exemples autour de ce plateau, on va les énumérer tout au long de cette émission. Tenez, je tiens dans ma main par exemple un cadeau pour Marie-Claire Frédéric, mais c'est un cadeau empoisonné, j'en ai fait le test cette semaine, je peux vous assurer que j'ai l'estomac bien accroché et j'ai pas peur de grand chose en matière de produits comestibles, et là j'ai affaire à une boîte de surstroming dont vous observez qu'elle commence à être bien gonflée. Il y en a même certaines qui éclatent, c'est d'ailleurs pour ça que cette canette, cette conserve est interdite aussi dans des compagnies aériennes. Bon, je l'ai fait venir par des réseaux de Suédois.
Bon, très fort.
J'ai goûté ça cette semaine.
C'est très
alors,
engageant.
Vous nous en donnez une définition, mais on peut déjà dire que l'odeur est absolument pestilentielle. Il est hors de question de l'ouvrir dans ce plateau.
Il faut être à l'extérieur pour l'ouvrir,
d'ailleurs,
obligatoirement.
C'est
une règle. Même les Suédois l'ouvrent uniquement à l'extérieur. Parce qu'en fait, ce sont des filets de harengs qui sont mis en boîte, mais la boîte n'est pas apertisée. Donc le détail est important.
Apertisation, Christophe Lavelle, s'il vous plaît.
Oh, un petit coup de chauffe pour tuer tout ce qui est vivant. Quoi.
C'est voilà, ça, donc de Nicolas Appert. Hein.
Oui, tout à fait.
Donc c'est encore
procédé
vivant
français.
À l'intérieur, et ça continue à évoluer, à fermenter.
Dès le premier coup d'ouvre-boîte dans cette conserve, s'il fallait trouver une image, on a l'impression de plonger dans une fosse septique.
Ouais, ça doit être ça.
Ah, ça c'est très engageant.
Mais c'est extrêmement tenace et on est vraiment. Ouais. Moi j'étais au bord de l'évanouissement, j'ai pas pu le goûter. C'est pas possible, mais c'est voilà, cadeau.
Merci.
Non, mais
merci
beaucoup. Vous allez adorer. Vous en avez goûté déjà ou pas ?
J'en ai pas goûté. J'ai goûté le requin islandais, mais celui-là je l'ai pas encore.
Racontez-nous ce requin islandais, parce que là aussi on est dans une histoire d'odeur très ammoniaquée. C'est une expérience que mènent certains touristes très téméraires.
En fait, moi, j'ai pas trouvé ça si terrible que ça, le requin islandais. Je trouve que ça a le goût un peu, justement, du minster ou du maroilles. Ça m'a fait penser à ça, tout
oui,
à fait.
Bon.
Mais pour un poisson, c'est bizarre, quand même, faut avouer. Voilà. En fait, c'est un requin qui est enterré sous le sable d'une plage pendant plusieurs mois. Parce qu'il faut dire que le requin, c'est un requin arctique qui est toxique à l'état cru. Voilà, parce que sa chair, enfin, l'ammoniac va dans la chair, alors que normalement il devrait être éliminé par certaines glandes.
Attendez, en des termes simples, on peut dire que c'est une chair remplie d'urine.
Voilà, voilà, c'est ça, c'est à peu près ça. Alors donc, on doit le faire de cette manière pour pouvoir le consommer.
Donc on l'enfouit donc, sous la terre.
On l'enfouit sous la terre, on met des pierres dessus pour appuyer, pour que justement les fluides corporels du requin s'en aillent.
Oui.
Et c'est sous une plage, c'est important parce qu'il y a la mer qui passe, qui va, qui vient. Donc ça sale le poisson en même temps, voyez.
Procédé extraordinaire en fonction des marées.
Voilà.
Oui, mais vous imaginez le désespoir.
Salaison intermittente.
Le désespoir de ces humains pour en arriver là. C'est-à-dire, c'est être obligé de bouffer des trucs pareils, les rendre bouffables, quoi.
Ouais. Désespoir ou intelligence.
Non, mais, oui, enfin, il y a les deux. C'est l'intelligence au service du désespoir. À un moment donné, je pense à la bécasse qui est effectivement un oiseau qui se vide chaque fois qu'elle prend son envol. Donc on peut dire que quand on fout une cartouche à une bécasse, elle est vidée. Et donc du coup, on peut l'accrocher dans le garage et attendre qu'elle tombe, que le bec soit pourri, sans s'empoisonner en le bouffant.
D'où l'expression faisandage.
Oui, c'est ça. Mais de fait, pour en arriver là, il faut quand même être dans le désespoir de la nutrition. Il faut arriver. Non mais c'est vrai, au départ culturellement, c'est ça.
Mais si on mange justement du requin fermenté sous le sable, du surstreaming en Scandinavie, si on mange des produits ou des produits lactés extrêmement fermentés en France, on est quand même le pays des fromages qui puent. Effectivement, Arnaud Daguin met le doigt sur une réalité importante. Comment en est-on arrivé là, sachant que ce sont des techniques, des processus qui sont universels, qui sont communs à toutes les civilisations,
tout à fait,
avec des exemples très différents.
Tout à fait.
Vous convoquez dans votre livre Pourri, Marie-Claire Frédéric, Claude Lévi-Strauss, qui distinguait, on le sait, dans ses analyses anthropologiques, la nourriture sous trois formes, la crue, la cuite et la pourrie. Il dit que la cuisson serait la transformation culturelle de l'aliment cru, tandis que la putréfaction en serait la transformation naturelle. Il y aurait du civilisé dans le cuit, il y aurait du barbare dans le pourri, vous n'êtes pas tout à fait d'accord.
Non, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'en fait, le pourri a besoin aussi de beaucoup de culture pour son élaboration. Justement, pour élaborer un requin fermenté, avoir l'idée de le mettre sous la plage avec les marées qui passent, etc.
Il y a tout un processus humain.
C'est plus compliqué que le barbecue.
C'est beaucoup plus compliqué.
Mais vous le dites d'ailleurs, c'est beaucoup plus difficile de faire un camembert qu'on peut qualifier d'ingrédient pourri que de faire cuire un steak.
C'est ça, exactement. Un steak, vous le mettez sur la braise, bon, il peut être raté, trop cuit, pas assez cuit, etc. Mais le camembert, il y a plein d'élaborations, d'étapes différentes pour arriver à faire un produit qui soit bon, qui soit comestible, et ensuite qui soit bon au goût, qui ait un bon aspect, une belle croûte, une belle pâte, etc.
Absolument.
Donc c'est complètement culturel, et ça, il y a aussi l'idée de transmission des procédés. Alors ça, c'est aussi la culture, la transmission des procédés, ça s'est transmis. Enfin, le camembert, c'est un fromage assez récent, mais il y a d'autres exemples qui se sont transmis depuis des milliers d'années de manière identique.
Et ça, c'est tout à fait étonnant.
C'est tout à fait étonnant et c'est passionnant, je trouve.
Et c'est passionnant. Christophe Lavelle.
Oui, c'est peut-être sur cet aspect justement où l'anthropologie fait une différence entre le pourri et le fermenté.
Oui.
C'est-à-dire que le pourri serait le naturel, c'est-à-dire que spontanément, les aliments dans la nature pourrissent.
On a constaté un jour, voilà, par exemple, qu'un fruit pouvait pourrir sur
exactement
sa branche.
Exactement. Et du coup, en le goûtant, on peut se rendre compte que c'est pas si mal que ça et qu'on a un peu mal au bide, mais qu'en fait, il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose. Et on se met à améliorer, développer un procédé hautement culturel qu'on va effectivement éventuellement pouvoir transmettre et qui finit par canaliser les transformations sur cet aliment, contrôler, et c'est à partir de là où on peut commencer à parler de fermentation.
Parce que la question qu'on se pose, et vous avez raison, c'est qu'on se dit à un moment donné comment un être humain a pu en arriver à tenter l'expérience de manger quelque chose qui a priori est très rebutant, mais même d'aspect. On est parfois dans des préparations en décomposition. Comment on a passé justement, comment on a osé prendre le risque, mais même pour une question de santé, quand on a faim, on mange, on trouve.
C'est le désespoir.
Mais aussi,
ça a dû prendre des milliers d'années. C'est comme notre façon de pouvoir se nourrir avec des céréales ou avec le lait de vache, par exemple. Ça nous a pris des milliers d'années. Et ça a été pas facile, quoi. J'imagine que ces process-là, ils ont commencé par l'observation. C'est une façon d'être au vivant, en fait.
Évidemment. Jérôme Gagnès.
Arnaud parlait de lait de vache. On a une auditrice, Laetitia Dupuich, qui nous demande est-ce que ma crème fraîche, la crème qui vient après avoir fait bouillir du lait cru de ferme, et donc est-ce que ma crème fraîche qui commence à pourrir au bout de 15 jours est comestible ?
Oui, très bonne question.
On parlait justement de ce qui est comestible.
Le problème, c'est que la dame a fait bouillir sa crème. Alors, elle n'aurait pas dû, parce que la crème crue va se conserver, va évoluer lentement mais sûrement, elle va évoluer vers un produit qui sera très goûteux, un petit peu acidulé, etc. Tandis que la crème, si elle a bouilli, il n'y a plus du tout de micro-organismes dedans, et dans ce cas-là, elle va pourrir et elle ne sera pas forcément comestible.
Donc méfiance devant le pot.
Voilà.
Oui, mais en fait, c'est tout le problème de la flore de base et de celle qu'on réinsémine après avoir soi-disant nettoyé.
Exactement.
En fait, c'est ce que notre ami Marc-André Sellos appelle la saleté propre. C'est la vie qu'il y a au départ et l'équilibre de tous ces micro-organismes.
Voilà. On va continuer à faire le tour du monde, justement, de ces saveurs pourries. On va se rendre compte aussi qu'il y a du très bon pourri très près de chez vous. Et on en a la preuve ici, d'ailleurs, avec une recette que vous nous avez préparée, Marie-Claire Frédéric. Mais pour l'heure, c'est le coup de lame d'Arnaud Daguin.
France Inter. On va déguster.
Le pourri, donc, n'existe pas. C'est une vue de l'esprit, une notion toute relative, un goût très personnel. Il n'y a pas de stop, pas de point final. Rien de corrompu, vraiment. De la vie qui palpite à la charogne qui pue, tel est le continuum de la chaîne du vivant. À quel moment précis dit-on qu'une chose, un être ou une blague est pourrie? À quel stade le Livaro est-il trop avancé? Le pescado, pas frais chaud, hein? À quel échelon olfactif dois-je changer mes Burlington? Du tout neuf au putride, de l'œuf tout frais pondu à celui de 100 ans, ce qui schlingue pour l'un, embaumera pour l'autre. Embaumé, je rappelle, technique de conservation du cadavre qui lui permet de s'exposer 3000 ans après au Grand Palais. Ou plus proche de nous, cosmétique du Macabé pour le rendre attirant dans sa bière. Mais voilà, momificateur, thanatopracteur, Pôle emploi vous guette, le corps humain désormais s'embaume tout seul. Ça, c'est l'effet magique des conservateurs de synthèse et des antibiotiques que l'homme moderne ingère à longueur de fast-food et de rhinopharyngite. Laisse vieillir un burger industriel sur l'étagère, il ne pourrit pas, il sèche. Eh ben toi qui l'as ingéré à toutes tes pauses déj, et qui en est peut-être mort d'ailleurs, tu ne pourris pas non plus. Tu pourras bientôt vénard t'exhiber façon Ramsès, ou plutôt, tu encombreras les sous-sols de ton imputrescible cadavre. Tu ne retourneras pas à la terre nourrir les arbres et le vivant, et faire du carbone comme ton devoir l'exige. La pourriture, c'est la vieillesse des morts. Comme il existe des vieux utiles, il y a des morts vitaux. Un mort qui vieillit bien héberge en son sein un microbiote foisonnant, preuve qu'il s'est bien nourri pendant sa vie terrestre, et il saura enrichir l'humus après les derniers sacrements. Humus, humain, même racine. Un mort qui vieillit bien élève des meutes, des écuries de bactéries, des étables de vers blancs, et cultive des champignons à foison. Ce fermier de l'au-delà, vous pouvez le devenir dorénavant. Allez donc mourir dans l'état de Washington au printemps prochain. Il y sera enfin légalement possible de s'y faire composter. Alors comment on fait? On vous met dans un conteneur avec de la paille, des copeaux de bois de la luzerne et on vous restitue 3 mois plus tard sous forme de terreau. 1 mètre cube de compost bien riche où vos héritiers planteront le chêne ou le platane ou l'aubépine du souvenir. Et vos petits-enfants pourront ainsi, au beau jour, lutiner sous vos ombrages en priant pour que vous restiez de bois. Et ainsi, recommencer toute l'histoire.
Bravo, voilà. Juste une petite question à notre scientifique Christophe Lavelle. Il y a eu effectivement des articles autour de ce phénomène selon lesquels les corps humains, après leur mort, se décomposeraient moins en raison de notre alimentation industrielle bourrée d'additifs alimentaires et de conservateurs. Mm-hmm. Qu'en est-il vraiment ?
On est dans le fantasme complet.
Ah.
Oui, oui, oui. C'est-à-dire que l'image est belle, mais l'impact de l'alimentation n'est pas à ce point-là sur un être mort. C'est pas le milligramme de conservateur qui va traîner dans notre corps, qui va changer le métabolisme.
Donc rassurez-nous, on peut encore se décomposer.
On va se décomposer même avec la pire, même avec la pire junk food ingurgitée.
D'accord.
Voilà,
merci. Arnaud, vous aviez aussi un message personnel.
Un petit message personnel qui s'adresse à la mort. La mort, si tu écoutes France Inter, franchement, tu exagères. L'été dernier, tout nous fauche Denis Mélier, dont on vient d'inaugurer la rue à Toulouse. En décembre, tu me prends mon paternel. En janvier, Sébastien de Moran, mon Seb, le roi des bons vivants. Personne ne saura plus jamais faire la fête comme de Moran. Un Moran et demi peut-être, mais comme de Moran, jamais. Bon, la mort, tu pourrais pas faire la grève un peu toi aussi? Allez, rappelle tes crabes dans leur panier, rembobine tes métastases, reste couché sur ton canapé, la mort devient la mère sofa. C'est mieux que le père Lachaise.
Merci beaucoup Arnaud pour ce message et on salue à nouveau évidemment la mémoire de notre ami Sébastien Demoran. Juste après notre pause musicale, on entre dans une recette où il est question de fromage fermenté selon une tradition qui remonte au 1er siècle.
C'est ça.
Après Jésus-Christ.
On va remonter le temps.
On va peut-être prendre des risques à ouvrir ce bocal qui est sous nos yeux, des risques pour les narines et peut-être aussi pour...
On verra, c'est la surprise, voilà. J'ai aucune idée.
Projection possible ou pas ?
Petite projection, ça va pas être énorme, mais d'accord. ça peut souffler un peu.
Il paraît que c'est très bon, on a surtout hâte de goûter.
Bah, vous allez goûter, oui.
Pour l'heure, il n'y a pas foule, avec Super Bravo, bon appétit sur France Inter.
Sanglant sur
Alors, les saveurs fermentées sur le plateau dont on va déguster. Il y a des réactions sur notre mail et sur l'appli mobile de France Inter.
Et oui, Martine Jérôme. Cizeron nous écrit en nous disant « Je suis allé en Islande, nous avons échangé leur requin ammoniaqué contre notre foie gras. Eh bien, chacun est resté sur ses habitudes culinaires. Nous n'avons pas aimé le requin, ils n'ont pas aimé notre foie gras. »
Et les frontières culturelles sont dures à abattre.
C'est QFD. En voilà
une preuve. C'est QFD.
Et le foie gras
est-il une, le foie gras est-il une technique de fermentation?
Ah non, pas du tout. Alors, le foie gras n'est pas du tout fermenté, mais par contre, par ricochet, on va dire, c'est le microbiote intestinal des oies et des canards qui les pousse, en tout cas les oies et canards sauvages, qui les pousse à se gaver naturellement. C'est-à-dire un procédé qui est en train d'être exploré par un certain nombre de boîtes qui tentent de développer le canard gras et non gavé en faisant des implants fécales ou fécaux, on va dire d'ailleurs plutôt, pour en fait pousser l'oie ou le canard à spontanément se gaver et tout ça passe par le microbiote.
Il y a deux voies de recherche, hein. Il y a la voie implant fécaux et il y a la voie microbiote naturel de l'environnement aussi.
Voilà. Mais on s'égare un tout petit peu des saveurs fermentées.
Et il y a Didier Rostin qui nous écrit de Guyane, du village de Saül, et nous qui nous explique qu'il est producteur de cacao, qui nous rappelle que le cacao fermente, les petites graines fermentent, pendant 6 à 8 jours afin de créer arôme et goût du futur chocolat, et que ce faisant, ça développe des odeurs très fortes et acides, ce qui permet d'extraire un liquide alcoolisé qui va être dégradé en un vinaigre de très grande qualité gustative. Merci Didier Rostin pour cette précision.
C'est ça, et beaucoup de gens nous disent, mais après tout, est-ce que le fermenté, c'est pas tout simplement le début du pourrissement, c'est pas finalement le début de la fermentation?
Si, non, parce qu'il se passe là, on parle du chocolat, mais ça pourrait être la même chose pour le thé, et d'ailleurs pour le pain, en fait, fermenté ne veut pas dire vivant. En l'occurrence, il y a plein d'aliments que l'on mange dans lesquels il y a au cours de l'élaboration un processus de fermentation. Donc encore une fois, le chocolat et le thé en sont deux grands exemples. Mais derrière, il y a torréfaction, il y a séchage qui fait que le vivant devient mort. Et ce que l'on mange, quand on mange du chocolat, on mange un aliment fermenté, mais sans aucun organisme vivant dedans. Donc il ne faut pas considérer que fermenté égale vivant. Ça peut être juste une étape d'un procédé. Et on a tendance un peu effectivement à oublier.
Mais il y a quand même un paradoxe que vous mettez en avant, Marie-Claire Frédéric, dans votre essai. C'est qu'a priori, la fermentation, la finalité de la fermentation, ce serait plutôt la conservation de certains aliments, notamment dans des bocaux pendant des années. Alors que, paradoxalement, le pourrissement, ce serait plutôt la destruction, la détérioration, la décomposition de ces aliments.
Exactement, c'est très paradoxal. Et donc la fermentation amène à la conservation, alors que le pourrissement amène à la destruction. Et c'est peut-être aussi une question de culturellement, d'avoir su interrompre le processus ou modifier le processus à temps pour pouvoir garder ce côté positif de la chose.
Absolument, et d'ailleurs vous dites aussi que pourri, fermenté, ce sont des participes passés ou des adjectifs totalement tabous dans notre vocabulaire, au point qu'on est obligé, ça c'est une réflexion intéressante, de cacher ces mots derrière d'autres mots, derrière d'élégants paravents. On parle du gravlax mariné, alors que c'est un ingrédient fermenté, voire un peu pourri, d'olives saumurées, de pain levé, de vin vieilli, de fromage affiné, d'entrecôte maturé, de gibier faisandé. L'ami Daguin l'évoquait à l'instant. Donc, fermenté pourri, ce n'est pas dans beaucoup d'expressions alimentaires.
Exactement. Hein. Ce sont des mots, ce sont des inconvénients lexicaux quand on veut les utiliser, parce que ça a une connotation tout à fait péjorative.
Quand le pourri colonise les spécialités fromagères.
Ça, c'est une recette du pays. Ça s'appelle la fougne.
La fougne.
Sentez-moi ça.
Non, ça va, ça a l'air bon.
On va vous la servir à l'étaler, c'est-à-dire en l'étale sur le pain.
Si.
Et c'est quoi qu'il y a dedans, là?
Ah, ben ça, c'est fait avec tous les restes de fromage de l'année. Alors on fait macérer ça avec du gras, et puis de l'alcool de bois, pendant 2-3 saisons. Puis il y a les couennes aussi.
C'est délicieux. On sent bien le goût du gras, hein, ça passe pas inaperçu.
C'est quoi les petits feuilles blancs, maintenant?
Ça, c'est des verres. Ben oui, comme ça, il y a la viande aussi.
Je suis végétarien.
Je suis végétarien. Michel Blanc. Ah oui. Je suis végétarien. La scène célèbre où les bronzés font du ski et se réfugient dans un chalet de montagne pour déguster. On leur met sous les yeux la fougne, cette espèce de jarre en terre cuite. Et c'est une recette, alors, évidemment, qui a été inventée pour les besoins du scénario, mais qui est toutefois vraiment inspirée de traditions campagnardes. Je pense au cajou mertsou, qui veut dire littéralement en Corse, mais on trouve également cette tradition en Sardaigne, de la tome de brebis qui a été pourrie, colonisée par une petite mouche qui pond ses vers, et lesquels vers participent à la destruction et à l'évolution, aromatique
du fromage. Il y a aussi, on peut citer aussi le pourri bressan, qui est justement, je pense que ça a été inspiré du pourri bressan,
oui.
Parce que ce sont justement des vieux fromages qu'on met ensemble dans une jarre, avec un peu d'alcool, avec différents des aromates, et ça donne quelque chose de très fort, et qui se conserve.
Et alors ce Moretum ?
Alors le Moretum, je vais l'ouvrir en direct live. Donc le Moretum, c'est une recette d'un traité d'agronomie du 1er siècle après Jésus-Christ.
Oui.
Donc que Columelle a écrit, c'était un propriétaire terrien près de Rome. Mm-hmm. Donc il avait d'abord voyagé un peu partout en Gaule, parce que il était un militaire. Mm-hmm. Et il a fini sa vie comme propriétaire terrien. Et il a écrit ce traité d'agronomie comportant des recettes. Alors donc ce Moretum Oxyporum, Moretum, c'est ce qui a donné notre mot la sauce meurette. Et Oxyporum, ça veut dire...
A priori, sauce meurette, on parle là d'une sauce au vin de Bourgogne.
La sauce au vin qui accompagne les œufs, exactement.
Quel est le rapport ?
Le rapport, c'est la racine de ces mots, ça vient de Mouria, qui est en fait un synonyme du garum, de la sauce de poisson. C'est une saumure, mais une saumure à base de poisson.
Très bien. Voilà.
Et il y en a un petit peu dedans, justement, de la sauce de poisson. Et donc, j'ai perdu le fil de la phrase.
Mais racontez-nous en quelques mots la recette.
En quelques mots, la recette, c'est un genre de pesto. Il y a des herbes, il y a du fromage, il y a un petit peu d'huile d'olive, il y a un petit peu de vinaigre aussi pour acidifier le tout. Mm-hmm. Et on met ça dans un pot.
Alors, il y a également, je crois, des fruits à coque.
Il y a des fruits à coque, des amandes ou des pignons, enfin des noix.
Ouais.
Voilà. On laisse macérer le tout dans un pot en terre cuite. Là, j'ai pris un pot en verre parce que j'avais pas de pot en terre cuite, mais c'est la même chose.
Mm-hmm.
Et et ça se conserve comme ça très très longtemps. Quand on veut l'utiliser, donc ça donne une pâte. Quand on veut l'utiliser, donc on peut le manger sous forme de pâte ou le diluer avec un peu de vinaigre et de garum ou de gnocchmam,
oui,
pour en faire une sauce.
Wow.
Voilà, alors on va voir ce que ça a.
Allons-y.
Tous aux abris.
Ouh.
Ouais. Ouh. Ouais, ça avait entendu.
On entend un
petit bruit.
Un peu discret.
Voilà. Voilà. Alors, on voit.
Au niveau auditif.
Un vrai.
Christophe Lavelle, il perd le sourire. Mais ça tombe très mal parce que c'est lui qui va plonger sa cuillère dans ce Moretum.
Voilà.
Allez,
alors,
j'ai pas d'effort. J'ai confiance en Marie-Claire.
Voilà, je vous ai préparé.
Les micro-organismes s'étudient, mais ils se mangent aussi.
Des galettes préhistoriques que j'ai faites avec une pâte qui a fermenté pendant 48 heures avant cuisson.
Très bien.
Voilà.
Racontez l'aspect.
Alors,
on a affaire à une espèce de pâte un peu bégeâtre.
Voilà, c'est beige parce que bon, il y a les amandes. J'ai mis des amandes entières.
Qu'est-ce que ça sent, Arnaud Daguin ?
On la sent en légère lévitation quand même.
Oui, parce que ça produit du gaz. Donc oui. c'est ça qui a fait le
bon
petit bruit.
Ça.
Oui, alors, c'est plutôt bon.
Oui ou non ? C'est-à-dire que moi, quand j'étais gamin et que j'étais apprenti cuisinier, on me disait quand une pâte a cette texture-là avec un peu de bulle dedans, mais tu la fous à la poubelle direct. Ah oui.
L'habitude a changé.
Voilà.
Mais par contre, ça sent pas spécialement
non,
mauvais.
Non, ça sent pas spécialement mauvais.
Combien de temps dans ce bocal cette préparation
Celle-là, elle a 3 semaines.
Et on a compris que c'était un pesto à base donc d'herbes fraîches. C'est important les herbes fraîches d'ailleurs.
C'est important.
Sarriette, menthe,
oui.
Coriandre.
Oui, parce que ça apporte des bactéries lactiques qui viennent de la terre,
Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est
ça doit être assez piquant.
C'est surtout une recette piquant, à peu près qui est très fidèle à la tradition du 1er siècle, juste après Jésus-Christ.
Voilà. C'est violent, hein.
Ah, c'est violent.
Ah ouais. Ah si.
Alors.
C'est le côté acidulé.
Mais il faut que ce soit acidulé, l'acidité est garante de la sécurité sanitaire.
Bah oui. On sent que le pH te garantit
la non-morve subite. Voilà.
Ouh, ça déboîte.
On est à 3-4 là.
Oui.
Mais il y a en même temps une vraie fraîcheur. Alors sur l'échelle de Richter du pourri, on va dire que la secousse se situe entre 7 et 8 sur 9.
Ouais, pas mal. C'est violent quand même.
Oh là là, puis surtout la longueur en bouche. On a flingué mon basilic de
Jérôme Gagné. Ah oui, aucun espoir pour la boisson.
C'est incroyable.
Non, c'est assez piquant, oui, c'est vrai.
Et dans le genre, mais c'est très bon.
Oui, c'est...
C'est puissant, c'est vraiment délicieux.
Je viens de délivrer le pamis du numé du vin.
Oui, c'est ça.
Il est décédé.
Oui, il est décédé sur le champ.
Et en parlant d'affinage un peu extrême... Arnaud Daguin, complètement déconcentré, a également une surprise à ses côtés.
Alors,
il s'agit de brie noire. Racontez-nous.
Alors, le brie noir, C'est le, en fait, le, les brie autrefois, les beaux brie blancs, bien formés, se vendaient tout à fait bien sur les marchés.
Là, on est à Melun.
On est à Melun, dans les marchés de Seine-et-Marne.
Oui.
Et puis, il y en avait toujours qui étaient moins jolis, plus irréguliers. Alors, ceux-là ne trouvaient pas preneur sur le marché. Et donc, les fromagers, les affineurs, ne voulant pas gâcher ces brie, les affinaient dans leur cave. Pendant très longtemps, pendant plusieurs mois. Donc un brie normal, entre guillemets, est affiné environ 2-3 semaines. Et le brie noir est affiné jusqu'à 8 mois.
Oui, là on est sur du brie de glace. Non.
Mais là on chope
de... Il faut une assurance. Ah,
je donc ça devient, on appelle le brie noir parce que la croûte devient, comme vous voyez, très foncée. La pâte est jaune paille et il y a les cirons,
oui,
voilà, ces petits animaux
qui viennent. On dirait le zoo de Vincennes.
Alors justement, Christophe
Ravel. Parc zoologique de Paris, s'il te plaît.
Comment?
Parc zoologique de Paris.
Oui, parc zoologique de.
Non, c'est de la maison donc.
Oui, absolument. Ça fait partie.
Très corporel.
C'est de la maison de Christophe Ravel.
Je suis vieux, alors pour moi c'est le zoo de Vincennes.
C'est vrai que le brie de Meaux, on avait un peu l'habitude forcément de ce fromage à pâte molle avec une croûte fleurie. Là, on a affaire à quelque chose qui a rétréci, qui est effectivement de couleur vraiment brune. Il porte bien son nom de brie noir. C'est visiblement les invendus ou les rebuts qui étaient affinés jusqu'à plusieurs mois, 7-8 mois en cave. Qu'est-ce qui se passe là dans l'affinage? On a une faune effectivement très présente sur la croûte.
Oui, on a une faune très présente sur la croûte avec un tas de champignons qui se développent. En même temps, il y a une déshydratation du produit, bien évidemment. Ce qui fait qu'on a une concentration et cette... concentration de saveur, cette longueur en bouche, et un écosystème extraordinaire tel point qu'il y a beaucoup d'équipes de recherche qui font vraiment en fait du carottage, comme on fait dans les glaces polaires. Sauf que là, on va faire du carottage dans une croûte de fromage, et suivant l'endroit où on se situe dans l'épaisseur de la croûte, on a des populations de champignons et de bactéries extrêmement diverses. Donc on a un écosystème fantastique, suivant si on est à moins de 1 mm de la surface ou seulement moins 1 mm, ça change tout. Quoi.
Vous évoquez des acariens qui seraient communs d'ailleurs aussi à un autre fromage dont la croûte est un peu rongée, c'est la vieille mimolette du nord de la France.
C'est ça, exactement. Mmh. C'est ça. La croûte aussi du laguiole ou du salaire.
Ou les vieux brebis du Pays Basque.
Oui, les vieux brebis du Pays Basque, exactement.
On a l'habitude de ces petites
populations. Il n'y a pas que les bactéries levures qui peuvent s'installer, il y a plein d'autres bêtes qui peuvent constituer l'écosystème.
Et le brie noir nous vient de Camille et Nicolas Grimont-Pré, une formidable ferme, la ferme de Sainte-Colombe à Saint-Mars, vieux maison en Seine-et-Marne. C'est un jeune couple en reconversion qui fait du fromage et du brie noir biologique, au lait cru évidemment, puisqu'il faut du lait cru pour que ça se transforme bien. Le pourri également est au rendez-vous dans nos verres avec Jérôme Gagnaise.
On va déguster sur France Inter.
Une fois de temps en temps, Sauternes est à l'encontre finalement du reste du Bordelais. Ce qui gêne la vendange un peu partout, c'est cette pourriture un peu trop présente. Chez nous, c'est un don du ciel, c'est extraordinaire et nous pouvons en profiter.
Le fameux vin liquoreux de Sauternes.
Le fameux vin liquoreux de Sauternes, alors ça n'est bien évidemment pas le seul, c'est le vin emblématique représentant les liquoreux issus de raisins atteints de pourriture noble, le Botrytis cinerea, mais je vais vous parler d'une autre appellation qui s'appelle Montbazillac.
Et pourquoi pas Sauternes?
Ah ben parce que j'en ai déjà parlé une fois, j'ai parlé du merveilleux cru de Mireille Darrel, le cru Barreja.
Parce qu'on vous reproche de temps en temps de faire du Bordeaux bashing, Jérôme Gagnaise, mais on
va faire une émission spécialement pour leur expliquer qu'il faudrait peut-être qu'ils changent 2-3 trucs, puis après on arrêtera. Donc,
il y a de très bons Bordeaux aussi. Commençons par dire ça, s'il vous plaît.
J'en ai découvert un sublime ce week-end, absolument
génial.
Formidable.
Bon,
je vous en reparlerai, c'est une petite merveille. Parlons de Montbazillac, c'est la plus grosse appellation de vin liquoreux de France.
Wow.
Ça fait plus de 2300 hectares. Alors c'est une appellation que je vous situe très rapidement géographiquement. Vous partez de Bordeaux pour y revenir, mais vous partez et vous allez plein est et vous allez dans la région de Bergerac en Dordogne. On est vraiment près du vignoble bordelais parce que le vignoble frontalier, ce sont les côtes de Franc avec nos copains de Château-le-Puy, la famille Amoreau. On va un peu plus loin, on poursuit sa route et on arrive dans le Bergeracois. Et au sein du Bergeracois, nous avons donc Montbazillac. C'est un vin donc de pourriture noble, c'est-à-dire que les vignerons attendent patiemment, avec parfois un peu de fébrilité, l'installation de ce champignon qui colonisent les baies à la faveur de brumes matinales qui sont séchées, réchauffées par le soleil de l'après-midi. Et ça ne se fait, et ça ne devient de la pourriture noble, parce que finalement, c'est une pourriture, elle peut devenir grise, elle ne devient noble qu'à condition que les raisins soient bien mûrs.
Vous parlez sous le contrôle de notre scientifique, attention. Hein,
qui pourra me couper et m'arrêter
et dès
que je dis une ânerie.
Et vous interrompre à tout moment.
Je vous en prie, Christophe. Et donc, on va ensuite, et c'est là où l'homme rentre en jeu, on va récolter ces raisins par tri successive, c'est-à-dire qu'on passe dans le vignoble plusieurs fois pour récolter à chaque fois les raisins les plus pourris, les raisins les plus beaux, mais ce sont les plus pourris. Alors, on mettrait ces raisins sur une assiette, comme on l'a dit tout à l'heure, les trois quarts des gens les foutraient à la poubelle directement, bah eux, au contraire, ils les gardent précieusement, ils les pressent et ils obtiennent ce nectar d'or que vous avez dans vos verres, donc je vous invite à le déguster.
Oh là là.
C'est un nectar qui vient du château Aubernas, c'est Romain Claveil qui produit ce vin, c'est la cuvée Ravindra 2015. Romain Claveil, il est rentré notamment dans le vin, enfin disons qu'il est rentré à Montbazillac parce qu'il s'est marié avec une jeune fille dont le père est le propriétaire du domaine de l'ancienne cure qui fait des Bergerac et des Montbazillac surtout qui sont absolument remarquables. Et puis j'ai goûté ça au salon Millésime Bio qui vient de se terminer, qui est un salon passionnant, et je suis tombé sur cette bouteille qui m'a ravi. Elle m'a ravi parce que toute la complexité d'un vin issu de botrytis, c'est-à-dire qu'on a le fruit rôti, on a le fruit exotique, on a l'ananas. Ce sont les trois mêmes cépages que Sauternes, c'est vraiment le cousin germain du Sauternes. C'est du sémillon. Alors en l'espèce ici, c'est sémillon avec de la muscadelle. Le sémillon, c'est le grand cépage de Sauternes. On peut y ajouter également du sauvignon si on le souhaite, ça apporte de la fraîcheur. Ici, point n'est besoin d'avoir de sauvignon. La fraîcheur est naturellement présente parce que ce champignon, eh bien, là vous dites si je dis une bêtise, mais il me semble bien que le champignon pompe un peu l'humidité qui est à l'intérieur du raisin.
Complètement, il nourrit l'eau qui est à l'intérieur du raisin.
Exactement. Et donc, concentre à la fois le sucre, mais aussi l'acidité. Et donc, ce qui fait qu'on a ici, dans notre verre, un vin qui est un ravissement pour le nez.
Sans lourdeur.
Et sans lourdeur, c'est un ravissement pour le nez parce que l'exotisme le dispute à la finesse où on retrouve les fruits confits, les fruits rôtis, des notes de miel qui viennent lier tout ça dans une sorte de formidable salade. Et donc, une aromatique magnifique. Et en bouche, on n'a pas l'impression d'avoir avalé un pot de miel après la première gorgée, ce qui est parfois le cas avec certains vins liquoreux, plus à l'est. Alors que là, la fraîcheur est bien présente. Et c'est des tout petits rendements, c'est une vingtaine d'hectos à l'hectare ici, donc c'est quand même pas très élevé. Cette bouteille coûte 14 euros, je crois, ou 15, je vérifie dans mes notes,
ouais.
J'ai plus l'info. Mettons 14, 15, les cafés c'est pour moi, 15 euros, c'est un vin qui est, avec un rendement aussi bas, cette complexité aromatique, cette fraîcheur, buvez ces vins. Avec modération, enfin modération restera au garage, mais elle est quand même là, c'est très important. Et buvez ces vins à table, servez-les avec d'une volaille, servez-les non pas seulement avec un foie gras, mais aussi avec certains poissons, servez-les avec des huîtres même, à Bordeaux ça se fait et ils ont bien raison, servez-les avec toutes sortes de mets, c'est un des rares vins avec lequel vous pouvez faire tout un repas complet, une volaille. Ensuite vous faites un beau fromage persillé et puis vous terminez avec une tarte à l'ananas ou une tarte aux poires, vous avez un déjeuner formidable et vous avez un vin sublime dans vos verres, un des plus complexes qu'on puisse imaginer.
Et ne le servez pas trop frais s'il vous plaît.
Mais non, je le sers là, il est à 12 degrés
parfait.
Et il mérite. Ça s'appelle Montbazillac, cuvée Ravindra 2015, château Aubernas. C'est Romain Claveil qui fait ça. Bravo Romain, c'est un très joli vin.
On va être obligé de se quitter et on devait aussi évoquer évidemment la vision des fruits pourris en surmaturation qu'on apprécie beaucoup. Les nourritures pourries sont des nourritures en devenir, des aliments en gestation dans leur processus continuel d'élaboration. C'est une des phrases extraites de Pourri, ce très bel ouvrage de Marie-Claire Frédéric aux éditions Les Ateliers de d'Argol. Et merci beaucoup d'être venu. Je mange donc je suis l'exposition dont Christophe Lavelle est le commissaire scientifique.
Et on y parle du pourri.
Jusqu'au 7 juin et on y parle du pourri. Merci beaucoup pour votre contribution érudite. La semaine prochaine, on sort les vieilles cocottes en fonte et on explore tous les secrets des deux B de la cuisine mijotée, le bourguignon et la blanquette. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.